Yeah, yeah. Oh, in my A.
Ladies and gentlemen, you heard the Sofa Sound Part 1. Now.
Yes, that's the massive original record on the Radio Campus 88.3.
On peut pas parler français, non?
Radio Campus, ça c'est une FM qui pète. Radio Campus 88.3.
Vous aurez la réponse de tout ça vis-à-vis de nos associés américains.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans. Bienvenue dans la science infuse. Il est 14h. On est ensemble pour une petite quarantaine de minutes à la découverte de la Beauce à bord de l'aérotrain. Aujourd'hui, suite et fin de l'écoute de ce documentaire de 3h réalisé par Félix Comon. Il était une fois l'aérotrain. Au cours des 4 semaines précédentes, nous avons écouté le début. La Genèse. Et là maintenant, nous allons terminer tout doucement ce voyage avec le chapitre 3, la toute dernière partie de ce long périple. C'est un documentaire de 3 heures que vous pouvez d'ores et déjà écouter en intégralité sur ces 3 heures sur orléans.radiocampus.org. Aujourd'hui, il était une fois l'aérotrain, chapitre 3.
Vous êtes dans une cabine de pilotage. Tout semblait coloré et simulé. Les proportions de chaque élément autour de vous seront bizarrement agencées. L'environnement vous est familier. Des cadrans inimaginables, des boutons inconnus, des leviers incomplets, c'est tout. Le son est sourd, comme celui d'une machinerie infinie étouffée par l'air ambiant. Devant vous, un large hublot sur l'extérieur projeté que vous ne distinguez pas. Vous vous asseyez debout sur le fauteuil rouge, enclenchez une manivelle et ça y est. Vous avancez comme jamais avant. Le mouvement vous semble si fluide, si indétectable. La vitesse de chaque côté de votre lucarne rend le paysage flou. Un fin rail blanc coulisse paisiblement sous votre siège couleur rubis. Vous volez, échappez à tout, êtes libre, votre rêve devient réalité. Rêve ? Mince ! Nos yeux humides s'ouvrent et cette fois plus de doute. Nous sommes Daniel Hermis, et des décennies après, nous rêvons toujours lors des nuits oraculaires d'être aux commandes de notre machine fantastique. Chapitre 3. Je sais, ça fait beaucoup d'informations en même temps à digérer. Mais rassurez-vous, maintenant vous savez tout. Du moins, pour l'instant. Cette fois, nous y voilà. C'est la fin. L'aérotrain I-80 Orléans, pendant toute sa durée de vie, aura fait voyager près de 16 000 passagers, sur presque 70 000 km au total. Son record de vitesse de 1974 à 430 km/h ne sera battu que plusieurs années plus tard par le maglev japonais et le TGV SNCF. Mais en réalité, la société Bertin savait que les trop grandes vitesses ne trouvaient plus d'usage sensé à un certain niveau. L'une des seules très rares fois où l'aérotrain leur rapporta de l'argent fut quand le prototype 02 fut utilisé pour tester les silencieux de l'avion Concorde. Il a existé une deuxième association, appelée Arsati, destinée entièrement à réhabiliter l'aérotrain, mais qui, comme née d'une mort assurée, n'ira nulle part. Il n'y aura eu donc que 5 aérotrains français en tout. Le I-80 qui finira brûlé. Le S-44, une des deux versions électriques qui finira brûlé aussi. Et le Tridim, l'autre petite version électrique, ainsi que les deux prototypes 01 et 02, qui eux ont été entreposés dans un hangar militaire de la région parisienne, après avoir été récupérés à l'état de ruine et restaurés dans les années 90 par l'association des amis de Jean Bertin, à qui Bertin et compagnie les avaient légués. Et notamment Thierry Farge, un grand enfant passionné de l'aérotrain. Les prototypes furent de temps à autre temporairement exposés au public lors de salons et événements. Mais l'association a, actuellement, pour grand projet la création d'un précieux espace muséologique permanent dédié à l'aérotrain, où notamment les trois derniers véhicules restants seront normalement exposés. Ces derniers, ainsi que des anciennes maquettes, ont été classés au monument historique en 2025. Le terme « musée » dérange, car il condamne définitivement l'aérotrain à l'histoire, de l'aveu même de ses enthousiastes. Mais il est vrai que, même si les véhicules attirent toujours autant les enfants, force est de constater qu'en France du moins, l'idée n'a plus bénéficié d'aucune volonté, ni d'aucun besoin. Petit à petit, l'histoire de l'aérotrain a été mythifiée, sacralisée, au point d'en devenir un fétichisme sur lequel tout le monde y revendique ses espoirs et regrets. Certains artefacts récupérés du I-80 seront érigés comme véritables reliques hantées et soigneusement chéris par des passionnés vivant autant comme des fantômes que ceux de leur attraction au paradis. À Gomès-la-Ville, par exemple, l'aérotrain est devenu un symbole de la communauté, au point de figurer sur le logo officiel de la commune. En 2004, une grande sculpture de l'artiste Georges Solter, représentant une version artistique du 01, sera érigée. Les restes de sa voie d'essai, éparpillés dans la nature, seront en partie réaménagés en promenade ou amputés par des axes routiers et des propriétés privées. On renommera des ronds-points, des rues ou des groupes scolaires en l'honneur de Jean Bertin et ainsi redonne-t-on vie à l'ingénieur en agrafant son nom à de nouvelles jeunesses. Par ailleurs, il est surprenant de voir à quel point les seules archives accessibles de l'aérotrain sont principalement des archives amateurs récupérées par des curieux. Et il est surprenant de voir la quantité de ces archives pour un projet ayant pourtant échoué, ainsi que la quantité de documentaires utilisant le sujet. Ce qui, pour être honnête, rend souvent la recherche d'informations d'apparence simple et factuelle assez difficile, tant il faut constamment démêler le vrai du moins vrai dans des seules sources dont la fiabilité est inconnue.
Si aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'informations disponibles en fait sur le projet, etc., vous constaterez que c'est presque exclusivement des choses qui ont été assemblées par des passionnés en fait. Il n'y a quasiment pas d'informations officielles, ce qui fait que c'est aussi assez perméable à certaines théories du complot, etc. Et en fait, la raison pour laquelle ça a été mis en place par des passionnés, c'est parce que pendant très longtemps, il n'y avait rien, en fait. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai reconstitué ce que ça avait été, etc., parce que mon grand-père m'a raconté, parce que lui, il avait vu les essais, etc., et donc il me l'a raconté. Mais c'était de l'histoire orale, en fait. Il existait très peu de choses sur le sujet. Et donc je pense que c'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons un peu frappantes en fait que ça suscite, que ça revient toujours, je veux dire des projets abandonnés dans les années 70, il y en a eu 50, et pourtant celui-là revient systématiquement.
Et c'est peut-être bien là que l'aérotrain vit toujours, là où les fans du monde entier se regroupent, dans le monde d'Internet, où l'aérotrain bénéficie de sites, forums et communautés de passionnés. Il n'y a qu'à voir les commentaires qu'en font ces gens sur les réseaux dits sociaux pour voir à quel point c'est une machine qui fait toujours débattre et rêver. L'aérotrain est bien devenu avec le temps un support de ce que chacun et chacune imagine. Une fierté pour certains qui voient le symbole d'une France exemplaire de modernité et d'une France qui n'est plus. Une honte pour d'autres qui voient l'aérotrain comme une machine complice d'une augmentation des écarts sociaux, survolant de haut les zones rurales, lâchant de fortes odeurs de kérosène derrière son passage et des nuisances sonores équivalentes à celles d'un avion. Une honte pour un projet incarnant tant les inégalités venimeuses. Sur les quelques 500 employés de Bertin et compagnie, on n'y comptait qu'une minorité de femmes, tous secrétaires, et à peine une poignée à la technique. Une honte pour une machine qui, de par ses seules 80 places, n'était destinée dans un premier temps qu'à accueillir les passagers prêts à y laisser l'argent nécessaire, alors qu'on sait que certains des locaux expropriés pour la voie de l'aérotrain Orléans n'ont même pas été invités à monter dedans.
Il y a un fétichisme très fort sur ce projet, parce que beaucoup de gens y glissent en fait comme un peu dans une boîte magique, plein de rêves qui voudraient voir se concrétiser, en fait, comme le projet a avorté. Il est assez facile d'imaginer que s'il avait marché, ça aurait été formidable, ça aurait résolu beaucoup de problèmes, et peut-être que c'est vrai. Et si on est complètement honnête, elle était aussi porteuse de choses relativement déplaisantes. Ça accélérait en fait le contraste et l'écart, voilà. Ça augmentait l'écart entre les locaux, les paysans et les gens qui traversaient ces espaces à toute vitesse en les surplombant, en n'étant pas du tout intégrés dans le paysage, etc. C'était un projet quand même assez, assez polluant et à la fois visuellement et écologiquement. Et puis... quand je faisais mon livre, j'ai exhumé pas mal d'archives sur l'aérotrain, j'ai retrouvé le trajet que le projet aurait dû faire autour de Paris. Rien que voir cette carte est complètement effrayant, c'est-à-dire qu'il y avait des forêts entières qui étaient massacrées, etc. Donc c'était quand même un projet... c'est l'époque aussi où Le Corbusier voulait raser Paris pour faire des tours géantes. C'est à Paris, c'est l'époque de la place des Fêtes, donc où on a injecté du béton dans la colline de Belleville pour des monceaux de béton pour y mettre des immeubles. Donc voilà. Donc j'ai pas de nostalgie particulière. Vis-à-vis de son projet, j'ai jamais... par exemple, en faisant mon livre, j'ai découvert un truc assez... qui relativise un petit peu toute la mythologie autour de l'aérotrain, c'est que vers la fin, en fait, avant que le projet soit annulé, donc vers la fin des années 70, la société de Jean Bertin menait des négociations commerciales avec plein de pays pour leur vendre en fait le projet. Et un des pays qui est venu, qui a fait une visite à Chevilly, à Sercotte, pour voir le projet, c'était l'Afrique du Sud, où existait encore l'apartheid à l'époque. Pourquoi est-ce que ça a intéressé l'Afrique du Sud? Parce que l'aérotrain permettait de traverser les enclaves noires, en fait, sans s'y arrêter. Voilà, donc, voilà, tout projet, ce qui ne veut pas du tout dire que c'était un projet que néfaste, etc., mais voilà, tout projet a ses zones d'ombre.
Sur les 6 pilotes au total des aérotrains Bertin, Daniel Hermis sera le dernier encore en vie. Et de même, le dernier pilote d'aérotrain au monde encore en vie. Étonnamment, il a très peu de photos de lui à cette période, où, comme beaucoup d'autres, il ne s'était pas rendu compte de l'histoire qu'il écrivait et n'avait pas immortalisé son œuvre. Il passera tout le reste de sa carrière à la Société Bertin et est en réalité l'un des quelques derniers membres, se comptant sur les doigts de la main, encore vivant de cette histoire à l'heure déjà écoulée où j'écris et prononce ces lignes. Il aura 3 enfants.
Mais par contre, des photos de moi, j'en ai pas. On ne prenait pas de photos. Mais moi, à l'époque, je n'avais pas d'appareil photo. Et je n'ai pas beaucoup de photos aux commandes de l'aérotrain. Hein. Maintenant, il n'y a plus personne. Hein. Je suis le seul rescapé, on va dire. Non, il ne reste plus personne. Il ne reste plus personne. On est les seuls survivants. Malheureusement, on n'est pas assez pour témoigner, quoi. C'était un signe, mais ils ont laissé l'alimentation, enfin, les poteaux d'alimentation en triphasé sont encore là, oui. C'est peut-être un signe. Ouais.
Philippe Bertin deviendra président de l'association des amis de son père et aura 4 enfants.
Alors on a eu c'est une bonne question, c'est assez amusant, parce qu'on a eu la chance de pouvoir pendant plusieurs années exposer les aérotrains rétromobiles, que vous connaissez peut-être, c'est cette grande exposition de véhicules d'époque, véhicules automobiles d'époque. C'est une très très grosse manifestation et on a pu plusieurs années de suite exposer l'aérotrain. Et on s'est aperçu de façon assez étonnante, on avait fait une présentation qui permettait aux gens de s'installer dans le cockpit de commande du 02, celui qui a ce look absolument science-fiction. On a eu un succès mais incroyable auprès des enfants. Les enfants étaient fascinés. C'est un truc de bande dessinée. Mais des milliers d'enfants qui sont venus, qui voulaient se faire photographier au volant, etc. Et du coup, qui posent des questions. Et l'intérêt des jeunes pour l'aérotrain est absolument incroyable. D'abord parce qu'on présente les films, on présente l'engin. C'est un engin qui fascine. Et ça reste quelque chose de fascinant. Si ça a un intérêt, s'ils trouvent que c'est intéressant, j'en serais ravi. Voilà, enfin, en tous les cas, merci de l'intérêt que vous portez à cette aventure, parce que c'est une vraie aventure.
Philippe Vassé deviendra écrivain et journaliste après avoir fait des études de géographie et philosophie.
Du tout, c'est quelque chose que j'ai complètement gardé pour moi pendant très 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 longtemps. Et pour une partie de mon entourage, ils ont découvert ça quand j'ai publié mon livre, en fait.
Le Monde, novembre 1974. Mais la foi dont on entoure des monuments compte plus que leur gloire. Les cathédrales du progrès et du prestige ont eu, elles aussi, leurs bâtisseurs. Et puis, en effet, il y a eu, bien sûr, le créateur, Jean Bertin. De la même manière, tout un culte a été fait autour de sa personne. Il est devenu la personnalité toute trouvée sur laquelle tout le monde peut indirectement rendre hommage à tout ce que l'on veut. Il a fini comme l'incarnation vivante de sa création, un ingénieur qu'on a transformé en Léonard de Vinci des temps modernes, et un visionnaire dépassé, fatalement victime de toute une définition de la modernité. On n'a aucun mal à reconnaître son côté innovatif, lui à qui l'on doit beaucoup d'inventions du quotidien. On n'a aucun mal à reconnaître son engagement patriotique dans la guerre, lui à qui on a même donné une croix de guerre 39-45, mais lui qui pourtant était très peu loquace à ce sujet. On n'a aucun mal à lui attribuer l'aérotrain, bien que lui-même, et on n'a aussi aucun mal à le reconnaître, considérait beaucoup l'esprit d'équipe. « Dites bien, déclare-t-il à la presse en 1965, que je ne suis pas l'inventeur de l'aérotrain. Ce fut un travail d'équipe. Toute découverte de nos jours ne peut être qu'un travail d'équipe. Il n'y a plus d'inventeur solitaire frappé comme par le Saint-Esprit de quelques éclairs géniaux. Malheur dans ce monde au Newton de la seconde moitié du XXe siècle qui recevrait une pomme sur la tête. Isolé, il deviendrait solitaire. » Mais étrangement, on a beaucoup plus de mal à accepter ces faits moins glorieux. Oh, ils sont là, bien sûr, hein, présents dans quelques archives et documents bien accessibles et publics, mais bien facilement ignorés. Personne n'a jamais parlé de sa position plus qu'ambiguë en faveur de la bombe atomique. Personne n'a jamais évoqué sa minimisation des problèmes environnementaux naissants, la pollution des crottins dans les rues du vieux pays, comme il l'appelait, étant selon lui bien pire que celle des voitures, des gaz et des usines. On a mythifié et déifié ce protagoniste mort tragiquement au nom de sa cause, au point d'en pleurer à sa simple évocation pour ceux l'ayant connu. Mais on a oublié de garder de Jean un être humain, avec tout ce que l'être humain a de beau et de moins beau.
Mais encore une fois, j'étais intéressé à tout ce qui était nouveau. Parce que c'était une époque passionnante, pas l'époque de...
Vous lisiez Jules Verne à ce moment-là?
Ah oui, oui, bien sûr. Mais cette idée de travailler dans la recherche-développement, vraiment, m'est venue d'une façon impérative à la suite de la guerre.
Je crois reconnaître dans votre accent un pays que je connais.
Oui, ben,
et que vous ne refusez pas.
Oh, absolument pas, si vous voulez, Bourgogne et Morvan. D'ailleurs, c'est difficile de dissocier les deux, mais enfin, c'est vraiment mon pays. D'ailleurs, j'ai proposé, puisque c'est à l'époque où certains séparatismes étaient à la mode, j'ai proposé, par exemple, que la Bourgogne soit indépendante. Pourquoi pas, hein? Elle est très bien placée, vous voyez.
Vous avez de glorieux ancêtres, de toute manière, dans cette aventure.
Oui, puis elle est bien placée économiquement. Elle coupe les lignes de chemin de fer.
La Bourgogne sera française.
Exactement, pourquoi pas.
Jean, lors d'une conférence en 1963. Aussi attrayant qu'il soit, il est intéressant de rappeler que le train glissant n'est pas nouveau. J'ai souligné les travaux fondamentaux de Girard et de Théric. Le fait que rien d'utilisable ne soit sorti de ces efforts méritoires est dû, comme cela s'est produit dans de nombreux autres cas, à ce que d'une part ces tentatives venaient un peu tôt du point de vue de la technique, mais aussi et surtout du point de vue des besoins.
C'est de dire, de faire observer aux gens qui ont peur, que de toute façon, s'ils ne changent pas, à terme de 5 ans, ils auront perdu. Car les concurrents, eux, changent. Voyez-vous ?
Donc il faut être optimiste, l'avenir est rose.
Eh bien, je crois que si on veut s'organiser, il n'a pas de raison d'être plus triste que ce qu'il était pour les gens des siècles avant.
Jean Bertin, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont du goût pour l'invention. Vous leur conseillez de persévérer ?
De persévérer, mais à condition de se faire conseiller et de ne pas proposer des choses, si vous voulez, qui ne se situent pas dans des perspectives économiques raisonnables. Parce que là, ça conduit à toutes les désillusions. Et je dois dire que chez nous, le mécanisme de tri des idées que peuvent avoir tous nos collaborateurs est quelquefois ennuyeux pour eux, mais il est une nécessité.
Je m'étonne que vous ne mettiez pas, vous, sur votre carte de visite, inventeur.
Ben non.
Dites-moi que vous êtes seulement l'inventeur.
Ben, je vous le dirai pas quand même.
Nous allons prendre une première pause musicale. Vous avez choisi Vivaldi, Les Quatre Saisons, Le Printemps, concerto numéro 1 en mi majeur par l'ensemble instrumental Imugizi.
André, propriétaire d'une ferme vieille de 200 ans occupée par la voie d'Orléans, est un des rares fermiers interviewés par la presse à l'époque. Allez, ça marchera jamais leur engin, je serai mort avant. Et puis tenez, dans 30 ans, on n'en parlera plus. Et ça ne fera même pas de belles ruines. Chers auditeurs, auditrices et autres, je vous félicite d'avoir tenu jusqu'au bout et d'être arrivé jusque-là. Je vous remercie sincèrement de m'avoir ainsi honorablement prêté autant de votre temps. Et justement, avant de partir, j'aimerais juste terminer avec une dernière question. Une question si classique mais qui s'avère au premier abord si risquée que l'on ose l'évoquer, tant la réponse nous surprendrait de profondeur. Quelle est la morale de toute cette histoire? Quelle est la morale de l'aérotrain? Il existe dans l'histoire humaine tellement de récits à raconter et tellement de leçons à apprendre d'eux. Une histoire, c'est une expérience de vie. Et la vie, dit-on parfois, abuse de ses expérimentations historiques. Et puis c'est vrai que l'on ne parle jamais de projets ayant échoué. Il y en a des centaines, alors à quoi bon? Après tout, je n'aurais jamais pu vous raconter cette histoire telle quelle si elle s'était bien réalisée jusqu'au bout. Et qui sait, l'histoire du dit aérotrain n'est assurément pas tout à fait finie. Alors, peut-être existe-t-il des récits semblables à cette aventure. Et peut-être alors cette entreprise n'a rien de si unique. Mais il est probable que, unique ou non, tout cela dépend surtout de la morale qu'on en tire. Et pour être honnête avec vous, c'est pour cette raison que j'ai voulu vous raconter cette histoire. L'événement scientifique en lui-même présente un certain intérêt, bien sûr, mais selon moi, toute cette affaire que l'on vient de vivre, à première vue assez terre-à-terre, sans mauvais jeu de mots, sert surtout de fondation à l'endroit où il nous amène. Et cette étrange destination, c'est ici. J'ai personnellement le plus grand mal à ne pas me sentir touché par cette aventure. Et je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai commencé à travailler dessus. Il y a quelque chose de si humain, quelque chose à laquelle je pense et j'espère on peut tous s'identifier dans les témoignages de personnes comme Daniel Hermis, Philippe Bertin ou Philippe Vassé. Des personnes pour qui de cette histoire ne reste rien ou presque si ce n'est le sentiment du gâchis, de l'inachevé, de l'incompréhension, de l'injustice, du regret. Des personnes pour qui les révélations nous alarment telles des flèches de vérité perçant les défenses du cœur. Une histoire maudite condamnée à servir de support temporel à toutes sortes de désirs perdus et dont les restes à la présence impossible vivent tels des espaces liminaux, des moitiés prisonnières nous rappelant constamment de la futilité de la vitesse infondée. C'est cette pensée que nous laissent les derniers protagonistes de cette aventure qui, des décennies après, s'en souviennent aussi clairement, qui parfois rechignent légèrement à parler de souvenirs si intimes, puis qui se plongent débloqués dans des anecdotes inoubliables. Ou, au contraire, des protagonistes pour qui en parler est un remède immédiat, en plus d'une reconnaissance inestimable, ou encore des protagonistes refusant simplement de l'évoquer, tellement les larmes au grand jour couleraient de leurs yeux témoins au simple réveil de regrets irréparables. Écoutez l'histoire de personnes ayant consacré leur vie à un projet fou qui n'a jamais abouti, une révolution autrefois actée dans l'esprit de tous puis innocemment disparue du monde, une promesse dont les débris ineffaçables ne semblent qu'engendrer qu'une infinie torture mémorielle, me semble parler au plus profond de nos craintes et désirs humains. Alors qu'arpenter ce qu'il reste des prototypes et des voies d'essai est une marche autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi, comme un profond et onirique voyage en arrière, mais dont la destination paraît pourtant si loin devant soi. Peut-on vraiment leur en vouloir à ces nostalgiques bloqués dans leur fascination d'enfance? Après tout, qu'ont-ils fait d'autre que de se laisser emporter par le charme d'une aventure qui s'est de plus en plus révélée à eux, telle une sirène piégeant ces explorateurs du passé? Moi-même suis en train de me réapproprier toute cette histoire au fond, et moi-même ai clairement participé à sa romantisation de par la mise en scène parfois discutable que je lui ai appliquée, comme une couverture de symboles qu'on exposerait sur un cadavre personnalisé. Ce que je crois en tirer personnellement ici, c'est que l'être humain a été victime de sa propre vitesse. Et que l'entretien si ardent qu'il tente faire de sa propre mémoire ne semble pas plus avoir retenu la leçon. Une vitesse qui finit par empoisonner la perpétuation d'un faux mythe, comme effrayé par l'éternelle menace d'un oubli. Un enchaînement d'événements qui est tellement terrorisé par ce qu'on en retiendra, qu'il en perd de vue son présent, sans même prendre le temps de réfléchir à qui est vraiment ce « on » qui retiendra ou pas. Car c'est peut-être cela, la finalité de toutes les peurs. La disparition, la mort, l'oubli des autres, de soi-même. Dans tous ces récits incompris de nos époques, combien recevront le privilège de ressusciter dans une autre? Combien de temps encore tiendront nos ruines? Ces innumérables souvenirs partis dans la fumée de l'esprit, et dont il ne reste que de pauvres socles de béton, et pourtant, qu'est-ce qu'il nous touche maintenant, ce simple béton? Tous ces petits objets témoins, ces vestiges d'amour, ces lettres fanées, ces doudous précieux d'enfants endormis, ces visages épurés de vieilles photos, quelle valeur auront-ils après nous ? Parmi ces innombrables moments précieux oubliés de notre présent, qu'on aimerait tellement, s'il vous plaît, pouvoir revivre ne serait-ce qu'une seule fois, combien resteront vraiment perdus de vue pour toujours ? Combien parmi ces regards perçants, ces mains chaleureuses, ces mots uniques, ces odeurs timides, ces rires échoïques, ces pleurs solitaires, ces minutes de jeu, ces instants que l'on n'a jamais enregistrés, ces livres que l'on n'a jamais écrits, ces podcasts que l'on n'a jamais terminés. Combien, parmi tous nos restes immatériels, ne vivant qu'au fil des rares humeurs de l'invisible. Est-ce possible un jour que la mémoire de chacune, chacun, disparaisse à jamais de la prétendue histoire avec un grand H ? Combien d'âges encore nous donnera la cruelle horloge du temps avant que sonne l'apocalypse du changement ? Quand tout, absolument tout, toutes les destinées disparaîtront. Et c'est là où je vais me permettre d'être d'un avis stupidement brut. Et si on s'en fichait ? Cette fameuse histoire, qu'on considère toujours comme une sorte de jugement avant-dernier omniscient des récits dont on laisse trop facilement la compréhension à nos successeurs. Il est évident qu'elle n'est rien d'autre qu'une interprétation dépendante de notre variable humanité. Alors, et si nous tentions de vivre avec l'histoire, mais sans laisser l'histoire vivre avec nous ? Et si nous laissions les batailles de réécriture aux tyrans ignorants et aux opportunistes savants ? Et si nous nous fichions de perdre ou de gagner ? Et si nous ne gâcherions pas notre temps avec ceux qui ne sont même pas capables de faire respectueusement l'usage du leur ? Et si nous léguions plutôt notre mémoire collective à la mémoire du temps ? Et si nous laissions le privilège d'une mémoire à ceux qui le méritent, à ceux avec qui nous avons vraiment vécu ? Et si nous sacrifions notre absurde présent pour rien d'autre que sa personne ? Je vais me permettre une petite référence, volontaire cette fois, à l'actualité. Nous sommes, aujourd'hui, dans un âge qui est souvent vécu comme étant trop rapide. Nous consommons trop vite, nous pensons trop vite, nous vivons trop vite et par conséquent, moins. Et si nous nous laissions attraper par une bohème de la lenteur ? Vous allez peut-être me dire que c'est une fin plus facile à dire qu'à faire. Je vous comprends tout à fait et pour tout vous dire, ce documentaire même que vous écoutez est né victime dans un certain paradoxe avec cette philosophie que je vois. Mais honnêtement, sommes-nous sûrs que cela ne vaut pas le coup d'essayer ? Et si, pour une fois, nous réfléchissions à toutes les belles choses que nous pourrions faire, si nous ne prenions pas le temps d'y réfléchir ? Les mots me manquent pour décrire réellement la morale que je retiens personnellement de cette histoire. Longtemps j'ai réfléchi et ai eu peur d'écrire quelque chose qui me semblait si important et pourtant si simple. Mais comme une révélation tout droit sortie d'un rêve, il me semble venir de je ne sais où un message qui me plaît. Le message d'une paresse à contre-temps. Le message d'une vie qui se moque de sa fatalité. Le message d'une jeunesse apaisée qui vieillit à l'envers. Le message de mode ode à la fugacité. Le message d'un être magicien se joint de toute forme de pression mémorielle. Le message d'un coureur spontané qui ne pense jamais à sa destination. Le message d'une procrastination qui résonne comme un hymne au présent. Le message d'une naïveté assumée, libre de tout futur. Le message d'un partage insensible aux maladies du monde, Le message d'un amour en paix avec le temps. Peut-être un jour comprendrons-nous. En attendant, et attendant, cette belle histoire me fait penser à une citation de Marcel Proust que je suis sûr d'avoir vu un jour écrit je ne sais où, et que je voudrais, à mon tour, vous déclarer. Comment oublier à jamais quelqu'un que j'aime depuis toujours? Il était une fois l'aérotrain.
Le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet et sans habitude. Notre vie, viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible, tout est permis, viens, écoute ces mots. La certitude que tout peut changer un jour. Viens, je suis là, je n'attends que toi, tout est possible. Permis, nous prendrons le temps de vivre, d'être libre, mon amour, sans projet. Et sans habitude, nous pourrons rêver notre vie.
Et voilà, Il était une fois l'aérotrain, un documentaire signé Félix Caumont que vous venez de découvrir en intégralité au cours de ces 5 dernières semaines sur Radio Campus Orléans dans la Science Infuse, un documentaire de 3 heures que vous pouvez réécouter en linéaire, en une fois, en 3 heures sur orléans.radiocampus.org ou alors en format épisodé, rubrique La Science Infuse. Nous, on va continuer et se quitter pour cette émission avec un titre de Molécule Creation en feat avec Prince Allah. Belle journée à vous.
Creation. Give thanks and praises. Give thanks and praises. Creation. Thank you.
Oh, Thank you. Man, I chant, man, I chant.